La série que l'on commence aujourd'hui, c'est sur l'Église. On s'est bien attardé sur d'autres sujets, mais là, il est temps de parler de l'Église. L'Église, c'est l'Église du Dieu vivant. Ce n'est pas un rassemblement de personnes qui viennent parce qu'elles se trouvent plaisir à être ensemble. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais ce n'est pas tout. L'Église, c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. C'est le Seigneur Jésus, alors qu'il était encore sur cette terre, après le témoignage de Pierre, eh bien, a dit, je bâtirai mon Église. C'est Matthieu, chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors évidemment, il y a des personnes qui ont interprété ce verset pour dire que c'était Pierre, la pierre sur laquelle on bâtissait l'église. Alors il y a une certaine église qui a un chef qui est le descendant de Pierre. Mais ce n'est pas du tout ce que dit ce verset. Ce verset fait rapport à au témoignage de Pierre. Quand Pierre a dit que, au verset 17, c'est verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà la pierre sur laquelle est bâtie l'Église. Je bâtirai mon église. C'est Christ qui bâtit son église et c'est sur sa personne que l'église est bâtie. Ce n'est pas simplement une idée religieuse, ce n'est pas un point de théologie, quoique ce soit une doctrine. Il y a la doctrine de l'église, mais néanmoins, l'église, c'est beaucoup, beaucoup plus que cela. L'église, c'est un corps vivant. L'église, c'est. La présence même de Dieu dans ce monde. Quand nous portons le Saint-Esprit en nous, et il y a une manifestation du Saint-Esprit dans l'Église. Ce n'est pas. Il y a beaucoup de mouvements chrétiens, d'œuvres chrétiennes. Il y a par exemple l'armée du salut. Il y a toutes sortes de missions. Il y a des écoles de théologie. Il y a des multitudes d'œuvres que l'on peut apprécier ou ne pas apprécier. Ça, c'est votre choix. Mais l'Église est unique. Je me rappelle quand j'étais à l'Institut biblique, des étudiants, il y avait un culte le dimanche matin. Je n'y ai jamais assisté parce que j'étais toujours dans d'autres églises, aussi bien à Paris qu'à Lille plus tard. Donc, je n'ai jamais vraiment assisté. Mais il y a eu une polémique. C'est que les étudiants aurait bien voulu qu'on prenne la Sainte-Seine à l'Institut biblique, comme il y avait un culte. Et un jour, le directeur a fait une prédication, il a été catégorique. Il a dit, l'Institut biblique, même s'il y a un culte le dimanche matin, n'est pas une église. Ce n'est pas une église. La Sainte-Seine est pratiquée dans l'église, dans le cadre de l'église. Même s'il y a un rassemblement de croyants qui se retrouvent pour toutes sortes de choses, eh bien, ce n'est pas bienvenu de prendre la Sainte-Seine. Et j'ai rencontré des chrétiens qui avaient fait une petite sortie en groupe, et puis, ah tiens, on va prendre la Sainte-Seine. Alors, il n'y avait ni pasteur, ni diacre, ni aucun responsable, et ce n'était pas dans le cadre d'une église. C'était simplement des jeunes qui s'étaient retrouvés. Et ils avaient eu l'idée de prendre la Sainte-Seine. Voilà. Et pourquoi pas pratiquer un baptême aussi, pendant qu'on y est. L'Église n'est pas prise au sérieux. La plupart des gens ne prennent pas l'Église de Dieu pour ce qu'elle est. L'Église est beaucoup plus que simplement un rassemblement de personnes, même qui croient la même chose. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est Christ. Et la tête de l'Église. Il en est la tête et il en est le fondement aussi. C'est quelque chose de très important. C'est d'avoir dans sa pensée une véritable notion de ce qu'est l'Église. C'est pas parce que vous vous retrouvez à une dizaine de chrétiens que vous êtes une église. C'est une église, elle est constituée. Il y a des personnes responsables dans l'église. Par exemple, vous avez ce verset dans l'épître aux Éphésiens, où il est dit que le Saint-Esprit a fait des dons à l'église. Des pasteurs, des évangélistes, et des prophètes, et etc. Vous voyez le verset. Il a fait des dons à l'église. Ces personnes-là doivent être dans une église. Si elles sont absentes, nous ne sommes plus vraiment dans le cadre d'une église. C'est même si nous sommes un rassemblement de chrétiens, nous sommes dans un camp de jeunes ou un rassemblement de, je ne sais pas, pour une convention. Et j'ai constaté que dans certaines conventions, eh bien, hop, on se retrouve. Ah oui, mais on est une centaine. Bon, on va prendre la Sainte-Seine. Pas du tout. La Sainte-Seine se prend dans le cadre d'une église. Et une église, c'est un groupe de chrétiens constitués. Il y a un pasteur, il y a des diacres, il y a des heures de réunion, il y a quelque chose qui est là, qui s'est fait. Ce n'est pas simplement un rassemblement occasionnel de personnes. Alors je sais que ça ne va pas faire l'unanimité des personnes qui écoutent ce genre de choses, mais je suis désolé, mais il y a des personnes qui ont pratiqué certaines choses en dehors de l'Église, dans un cadre seulement chrétien, mais pas dans le cadre d'une Église. L'Église, c'est beaucoup plus qu'un certain nombre de personnes, même si vous êtes 100, vous êtes 1000, vous êtes 10 000, ça ne fera pas de vous une Église. C'est. Alors, ça ne veut pas dire. Dans ces rassemblements, l'Église a ses représentants, évidemment. Nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau. À chaque fois que nous sommes dans n'importe quel endroit de ce monde, nous sommes les représentants de l'Église. Et nous sommes une partie de l'Église. Mais l'Église en elle-même, c'est un groupe de personnes qui sont constituées et qui ont un pasteur, qui ont des diacres, qui ont suivi une certaine règle, qui n'ont pas, ce n'est pas simplement quelque chose qui est occasionnel. Voilà, on se retrouve occasionnellement et on pratique des choses qui sont dans le cadre, normalement qui sont dans le cadre d'une église. C'est le Seigneur Jésus a fait cette promesse. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est une promesse qui a commencé quand le Seigneur l'a dite. Il a dit qu'il bâtirait. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il a bâti l'Église. Il a commencé à bâtir l'Église quand il a envoyé son Saint-Esprit. C'est à la Pentecôte que commence l'Église. Et elle se termine à l'enlèvement de l'Église, quand l'Église est enlevée et que le Saint-Esprit est enlevé avec elle. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, c'est dans cette période qui dure depuis à peu près 2000 ans maintenant, eh bien l'Église rend témoignage et elle est toujours là. Des milliers d'années, 2000 ans plus tard, après des persécutions, des changements de fondamentaux de civilisation, nous ne sommes plus à l'époque des Romains ou au commencement de l'Église. Nous sommes au début du 21e siècle, après Jésus-Christ. Ça représente beaucoup de temps. Et l'Église est toujours là. Et il y a même s'il y a eu une Église apostate, il y a des Églises infidèles, mais il y a toujours une Église fidèle qui perdure au travers de tous les siècles. Même si les persécutions sont les plus dures possibles, l'Église ressort plus pure que l'or après être passée par l'épreuve. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez. C'est une promesse. Le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il y a des personnes, et j'ai entendu, et j'ai lu dans beaucoup de récits, des personnes qui parlent mal de l'Église. Mais nous sommes autorisés peut-être à parler mal de l'Église infidèle. Mais il y a une Église fidèle et une Église qui souffre. Une église qui reste dans le silence. C'est pas elle qui a la parole, la plupart du temps. C'est même dans ces certaines églises, il y a des chrétiens fidèles et il y a des responsables qui ne le sont pas. Et les chrétiens fidèles souffrent de ce que la prédication n'est pas annoncée comme il le faut, que les choses se passent d'une manière qui n'est pas conforme. Et il y a même des pasteurs qui pratiquent des choses que, bon, je vous dis, zut, alors c'est un pasteur qui fait ça, mais ou qui croit ça. Il y a des pasteurs qui ne croient pas à la Trinité, par exemple. Ils sont dans une église, ils sont la tête d'une église, et ils ne croient pas à la Trinité. Et il y a des personnes qui sont fidèles et qui souffrent de la chose. Et elles ne savent pas où aller. Elles sont comme des brebis sans berger. Il n'y a pas de berger. Ou le berger qu'il y a n'est pas un bon berger. Mais malgré tout, l'Église continuera. Et même s'il y a, je ne le pense pas, hein, mais imaginons qu'il y ait encore 10 000 ans devant nous. Hein, eh bien, 10 000 ans plus tard, l'Église sera toujours là. Les choses auront changé. Peut-être qu'on ira sur la planète Mars. Peut-être qu'on aura établi, hein, j'imagine, hein, allons-y, puisque je suis dans l'imagination, et 10 000 ans, eh bien, on peut en faire des choses. Et on pourrait, l'Église sera toujours là, avec les mêmes bases, avec les mêmes structures, avec les mêmes principes, avec la même parole de Dieu. Ce sera toujours la même chose. Même si tout l'environnement est bouleversé et change complètement, l'Église fidèle sera toujours là. La vraie, la véritable Église. Le Seigneur Jésus-Christ l'a commencé, il la continue, et il la continuera. C'est une chose certaine. Satan peut se déchaîner, il peut rugir, il peut faire tout le mal qu'il veut. L'Église fidèle restera toujours là. Et plus le sang des martyrs a coulé, et plus l'Église s'est fortifiée, et plus elle a grandi. N'importe quel mouvement religieux aurait disparu après la persécution. Et l'Église est toujours là. C'est comme cela. Je me rappelle de cet épisode. C'était pendant que du temps de l'Union soviétique. Vous savez, l'Union soviétique a persécuté l'Église. L'Église est toujours là. L'Union soviétique a disparu. Pourtant, qui aurait pensé il y a 50 ans que l'Union soviétique un jour disparaîtrait? Ce n'était pas programmé, hein? Et pourtant, elle a disparu comme une fleur qu'on coupe. C'était terminé. En l'espace de 10 ans, c'était fini. Donc c'était des soldats soviétiques qui étaient arrivés dans un village où on avait dénoncé qu'il y avait des chrétiens. Et en effet, dans le village, il y avait pas mal de chrétiens. Alors ils sont arrivés, ils ont brutalisé un peu tout le monde, ils ont fouillé les maisons, ils ont trouvé des Bibles. Et ils ont mis tout ça au centre du village et ils ont mis le feu à tous les livres et à tout, parce que bon, la plupart du temps, ces gens-là ne savaient même pas lire. Alors ils sont tout ce qui était livre, ils ont brûlé. Hein. Et ils ont brûlé, voilà. Et puis ils sont partis en leur disant de ne plus recommencer. Et à ce moment-là, un chrétien a ôté son pied et sous son pied, il y avait une page de Bible. Parce que pendant qu'il le brûlait, le feu a soulevé une page. Et l'a fait tomber au pied de ce chrétien. Et lui, il a mis son pied dessus pour que personne ne voie cette page. Elle n'était pas grande, hein? Et alors, ils ont lu cette page de Bible pendant des années, jusqu'à ce qu'ils aient une Bible complète. C'était une page du livre de Jérémie. Bon, je vous dis, ils auraient préféré peut-être avoir une page de l'évangile de Jean, ou une page de... Mais c'était Jérémie, Dieu, dans sa providence, dans sa miséricorde, leur a accordé une page du livre de Jérémie. Et ils ont été bénis par la lecture de la page du livre de Jérémie pendant des années. Dieu prend soin de son Église. Il lui a donné suffisamment de nourriture. Oh, ils n'avaient pas l'abondance de toute une Bible, mais ils avaient une page, pas plus. Et Dieu, dans sa miséricorde, a préservé cette Église, l'a fortifiée et l'a nourrie d'une page. Dieu garde et préserve son Église. Et je dis cela, mais il y a des multitudes et des milliers de témoignages de fois où Dieu a préservé son Église, où des gens sont passés. Je me rappelle de. Je connaissais Frère André, c'était un ami. Maintenant, on le connaît de son nom, mais je l'ai rencontré à l'époque où il se cachait encore. Et alors, il m'avait raconté que il passait un jour dans une rue, une route, et il y avait la Tchécoslovaquie. C'est quand le printemps de Prague, quand les portes ont été fermées définitivement. Bon, maintenant elles sont réouvertes, hein. Mais quand il a compris que c'était fini, que les Bibles ne passeraient plus, il a chargé une camionnette de Bibles. Mais alors là, il les a pas cachés, hein. D'habitude, il les cachait dans des doubles fonds, des portières, des machins comme ça. Là, il les a pas cachés, il les a entassés le maximum qu'il a pu, et il a pris sa camionnette et il a roulé vers la Tchécoslovaquie. Et il est arrivé à un endroit où il y avait des chars soviétiques qui occupaient la route. Alors il est arrivé, et quand il y avait un char, il le contournait, il contournait les chars, et personne ne l'a arrêté. Il est arrivé, il a livré ses Bibles, et puis il est reparti. C'était un miracle. C'est les dernières Bibles qui étaient arrivées dans ce pays, à Prague. C'est un miracle. Dieu a fermé les yeux de ces soldats. Ils ne l'ont pas vu. Et je me rappelle d'un frère en Christ qui passait des Bibles dans un certain pays. Je ne veux pas dire non parce qu'encore la persécution existe. Eh bien, il m'a dit, tu sais, hein, un jour, le douanier a ouvert ma valise. Il a vu la Bible. Il a regardé. Il a feuilleté. Il a dit, ça, c'est un bon livre. Hein. Il faut les passer. Hein. Il a refermé la Bible. La valise, il lui a dit, vas-y, continue. Et alors, quand il a su, ben, il a rempli sa valise. Il n'y avait plus de cachette. Et il voulait voir ce douanier-là. Et le douanier, ben, il dit, ah oui, c'est toi, allez, vas-y, tu en règles. Et il laissait passer. C'est comme cela. Dieu a bâti son église, il la protège, il la fait grandir, il la nourrit. Il se sert même des instruments, même des inconvertis parfois, pour conduire son église et la garder, la continuer. Il a dit, il a fait une promesse. Vous pouvez soupirer et dire la tiédeur de l'église, la médiocrité de l'église, et ceci et cela, hein, vous avez sans doute raison. Mais la véritable église soupire autant que vous. Et vous êtes cette véritable église qui soupire et qui attend des temps de rafraîchissement, qui attend que vraiment Dieu manifeste sa puissance et sa gloire dans son Église. Parce que c'est l'Église du Dieu vivant. C'est le verset que je voulais lire aujourd'hui avec vous aussi. C'est dans 1 Timothée, au chapitre 3, verset 15. Bon, le verset 14 d'abord. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Christ a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est un des versets, des passages les plus précieux. Hein. C'est l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Ce n'est pas une faculté de théologie qui est la colonne et l'appui de la vérité, même s'il y a des facultés de théologie qui ont la bonne doctrine, qui sont vivantes, qui sont ferventes. Il y en a encore quelques-unes. Hein. Mais c'est la colonne et l'appui de la vérité, l'Église. L'Église. Ce n'est pas le grand théologien. Ce n'est pas le grand commentateur, ce n'est pas l'école biblique, ce n'est pas le mouvement, c'est l'Église du Dieu vivant. Et j'aime bien cette phrase, hein, il est dit, c'est la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Ça veut dire que s'il est vivant, il est agissant. Dieu, il n'est pas mort, il est toujours là. Même si dans certaines périodes de l'histoire de l'Église, on se dit, mais où était Dieu dans tout ça? L'Église était presque comme anéantie, comme éteinte. Et je peux vous dire une chose. Un jour, dans la présence de Dieu, nous apprendrons combien l'Église était présente est grandement présente à cette époque-là. Et nous pensons, nous avons le Moyen Âge, il n'y avait pas tant d'églises que ça, les chrétiens étaient peu nombreux. Détrompez-vous, l'église du Dieu vivant est toujours là, toujours. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. J'ai tellement confiance en Dieu que je ne peux pas imaginer qu'il y ait une période de l'Église, de l'histoire de l'Église, où il n'y a pas eu une Église fidèle, nombreuse, puissante, ayant un grand témoignage. Ce n'est pas possible autrement. J'ai appris en histoire de l'Église, au Moyen Âge, l'Église était presque éteinte. Il y avait quelques croyants. On concède. Ces gens-là concèdent quelques croyants. Ils disent oui, mais il y avait quelques-uns. Parce qu'ils n'osent pas dire qu'il n'y en avait plus. Mais pour moi, je ne peux pas imaginer un instant qu'au travers de toutes les persécutions, toutes les difficultés, même du Moyen Âge, eh bien, il n'y avait pas une église fidèle, puissante, militante, conquérante. Une église qui a une vision de l'évangélisation du monde. C'est donc là que nous plaçons notre confiance. Nous plaçons notre confiance dans le Dieu vivant qui continue à faire grandir son Église, à l'établir et à faire d'elle une lumière parmi les nations. Et même si nous disons, oh ben, nous sommes une petite Église, nous ne sommes pas très nombreux, oh ben, nous sommes plutôt tièdes, je peux vous dire une chose, c'est l'Église du Dieu vivant. Elle est vivante. Et ce qui est autour de nous, même si cela paraît très puissant, très fort, c'est mort. C'est mort. L'Empire romain a persécuté les chrétiens. Il était très puissant. Qui aurait pu imaginer, à l'époque de la grande puissance d'Empire romain, que cet empire n'avait plus que pour un siècle. Allez, un siècle ou deux. On aurait dit aux gens, bah, vous savez, votre Empire romain, dans deux siècles, c'est fini, hein. Il va disparaître. Et vous aurez rayonné. Et vous aurez parlé 30 ans avant la chute du mur de Berlin et vous dire, mais l'Union soviétique, vous savez, dans 30 ans, ça sera disparu. Hein. On n'en parlera même plus. Ce sera même une petite ligne dans les livres d'histoire. Ce sera même plus commenté et ce sera plus du tout la une des journaux. Personne n'aurait pu imaginer ça. Et l'Église, persécutée, est toujours là, toujours plus puissante, toujours plus vivante. Je me rappelle un jour, j'étais dans une grande rencontre de chrétiens. Alors il y avait toutes sortes de nationalités, mais surtout des hindous. C'était des hindous qui avaient fait la chose. Et il y avait un groupe de chrétiens d'Allemagne de l'Est. Alors si vous aviez vu ces gens, qui ne parlaient pas du tout. Tout était traduit en français, en anglais et en allemand, pour que tout le monde puisse comprendre. Et voilà ces gens, et ils se retrouvaient le soir, ils allaient tous ensemble au bord d'un pré, et puis là, ils chantaient des cantiques. Et c'était à l'époque de l'Église persécutée. Ils étaient venus, et ils étaient tout heureux, de pouvoir se retrouver dans un pré et pouvoir chanter des cantiques. Et c'est, vous savez, ça vous tire les larmes des yeux. C'est ces chrétiens fidèles qui est mûri et endurci par la persécution. Ils avaient tenu ferme. Et cela, il n'était pas question de leur dire, mais vous savez, en Allemagne de l'Est, il y a les chrétiens tièdes. Ça n'existe pas. Les tièdes, ils sont déjà plus là. Ils sont partis. Soit ils sont devenus des chrétiens, de bons chrétiens, soit ils ont quitté l'Église. C'était des chrétiens qui aimaient le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Et ils se passaient tout le temps ensemble, ils priaient et ils chantaient des cantiques. C'est alors que nous, on allait, on discutait entre nous, on blaguait un petit peu. Non, eux, c'était passer du temps à prier, à lire la Bible, à se réjouir ensemble. C'est chanter des cantiques. Voilà.